Bonjour et bienvenue dans ce 57e épisode de la Minute Nintendo. Alors aujourd'hui on est avec Aegis qui est rédacteur sur Nintendo Différence et on va parler donc d'un sujet très chaud, à savoir le prochain Pokémon sur DS, donc Pokémon Noir 2 ou Pokémon Blanc 2. Donc bonjour Aegis.
Salut Moutmat.
Alors donc tu es vraiment un expert Pokémon et alors est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu et plutôt nous dire quels sont les jeux Pokémon auxquels tu as joué un petit peu. Est-ce que tu as commencé vraiment au tout début de Pokémon?
Alors un expert, bon, faut pas non plus exagérer, hein. Je ne suis pas une encyclopédie vivante sur les Pokémon, hein. Il y a des sites qui font ça beaucoup mieux que moi. Mais effectivement, j'ai beaucoup suivi la série depuis ses débuts. J'ai commencé avec les versions bleu-rouge et or et argent, rubis-saphir. Je suis passé par toutes les générations du jeu avec un très grand plaisir et évidemment... J'attends avec impatience Noir et Blanc 2 qui sortiront bientôt.
Ok, donc bon, effectivement, tu as quand même une grande expertise vu que tu as vu l'évolution de la série. Alors, comment tu pourrais te qualifier vis-à-vis de Pokémon? Quel type de joueur tu penses être? Est-ce que tu es plutôt dans la logique du collectionneur ou du joueur vraiment stratège qui va élever ses Pokémon, faire des œufs, lui apprendre les bonnes attaques, les bons EV, etc.?
Alors, je vis le jeu vidéo maintenant avec mon statut d'étudiant de façon moins sérieuse que j'aurais peut-être pu le faire avant. Donc, je suis plutôt de l'optique du collectionneur à jouer de temps en temps à Pokémon. J'ai effectivement ma petite équipe que j'ai entraînée, mais je suis pas du genre à faire des reproductions tout le temps, à regarder les EV sans arrêt, etc. Je trouve que c'est très bien, il y a des gens qui vont faire des tournois avec ça, mais c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de m'amuser, de faire une collection assez conséquente, et je m'amuse déjà assez bien comme ça.
Ok, parfait. Donc on va un petit peu te demander ton avis sur ce jeu, donc qui est quand même très attendu, mais qui a quand même suscité un petit peu la polémique. Donc on va aborder, on va essayer de faire un petit peu trois parties dans ce podcast. On va déjà revenir un petit peu sur la 5G, donc Pokémon Noir et Pokémon Blanc, faire un petit peu le point sur ce que cette génération a apporté, et ensuite on va voir un petit peu vraiment ce qu'on sait sur cette nouvelle génération, enfin ce nouveau jeu, donc Pokémon Noir et Blanc 2. Et enfin, on va un petit peu se lâcher, un petit peu aborder les diverses rumeurs, nos souhaits pour ce prochain jeu. Et vraiment, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce jeu? Quelles sont les nouveautés qu'on peut attendre? Donc, si on revient déjà pour commencer sur Pokémon Noir et Blanc, donc le premier jeu de cette cinquième génération, et quelles sont finalement les nouveautés de cette génération? Déjà, au niveau du scénario, ça a quand même beaucoup changé.
Pokémon est une série dont on peut vraiment voir qu'elle a suivi le même modèle quasiment pendant tous ses jeux. J'ai mon premier Pokémon, je vais parcourir les arènes, je bats la méchante équipe qui veut faire des choses méchantes, et je bats la Ligue Pokémon pour devenir un grand champion Pokémon. Ça a toujours été le même modèle. Noir et Blanc ne fait pas exception à la règle, sauf qu'il a toujours cherché à créer des petites surprises là où on ne s'y attendait pas. Il a essayé de casser ses propres codes sans pour autant se détacher des choses auxquelles on était habitué. Mais je retiens surtout de Noir et Blanc, surtout la fin qui était, à mon avis, assez surprenante pour un jeu Pokémon.
D'accord, donc c'est vrai que ce jeu donc remettait un petit peu en cause le modèle traditionnel de Pokémon. Alors, dans les Pokémon, généralement, moi je ne suis pas un spécialiste, mais j'en ai fait quelques-uns, on savait quand même tout de suite qui étaient les gentils, qui étaient les méchants, on jouait le rôle du gentil. Est-ce que ce Pokémon Noir et Blanc est toujours finalement aussi manichéen et peut-être un scénario un peu simpliste pour les enfants?
Cette version de Pokémon continuait un peu dans la lignée des idées un peu écologistes qu'il y avait dans les jeux Pokémon précédents. Sauf que cette fois-ci, elle nous pose effectivement la question de savoir si le dresseur là-dedans est une personne, une bonne personne ou une mauvaise personne. Le but de la team Plasma, qui était donc l'équipe qui sévissait dans la région du Nice, leur but était de libérer les Pokémon du joug de leur dresseur. Ainsi, donc, dans leur idéologie, les Pokémon étaient maltraités. On peut y voir une critique de l'asservissement de l'animal par l'homme. Et c'est, à mon avis, la question que pose ce jeu.
Ok, donc c'est finalement... on a l'habitude d'associer Pokémon un petit peu aux jeux d'enfants pour jeunes publics. Finalement, c'est pas aussi simple cette fois-ci. Et donc, indépendamment de ce scénario qui est quand même plus profond que d'habitude, j'ai l'impression, au niveau du système de jeu en tant que tel, est-ce qu'on a des nouveautés ? Par exemple, au niveau des fonctionnalités online, qu'est-ce que ce jeu a apporté ?
Au niveau des fonctionnalités en ligne, pas énormément de choses. Moi, je retiens surtout dans les fonctionnalités en ligne les nouvelles possibilités en matière d'échange, principalement grâce au fait que cette fois-ci, pour faire les échanges, on n'avait plus besoin de mettre des Pokémon dans notre équipe et de les prendre dans les boîtes. Cette fois-ci, on prenait directement dans nos boîtes et on pouvait faire les échanges directement avec les gens sans être obligé de se déconnecter à chaque fois pour aller chercher des nouveaux Pokémon à échanger. C'est un gain de temps considérable. Mais après... concernant les fonctionnalités en ligne, on avait à peu près les mêmes choses. Hein. Un centre d'échange, des combats en ligne. C'est, je crois, le minimum pour s'amuser entre fans de Pokémon en ligne.
Ok, et donc c'était finalement le premier jeu, si je ne dis pas de bêtises, tu me corrigeras si je dis une bêtise, qui utilisait vraiment les fonctionnalités de la DSi avec ce fameux Vokit.
Oui, le Vokit, bon, c'est pas quelque chose de particulièrement intéressant. Il utilise simplement l'appareil photo inclus dans la DSi pour faire un coucou à la personne avec qui on communique. Ça fonctionnait en local avec les gens qu'on pouvait croiser avec le Seguir, ou ça pouvait fonctionner en ligne avec ceux dont on avait le code ami.
Donc le Seguir, on le rappelle, c'est un petit peu l'ancêtre du mode Street Pass de la 3DS, c'est ça ?
C'est à mon sens très ressemblant, puisque à l'aide de la fonction sans fil, il permettait de détecter les autres personnes dont le Seguir était allumé. Et ils étaient enregistrés, mais à vrai dire, ça n'allait pas aussi loin que le Street Pass. Le Street Pass, c'est quand même quelque chose où on enregistre vraiment les données de la personne qu'on a croisée. Là, c'était plus son pseudonyme, sa localisation, son message, mais peu de choses en plus.
D'accord, donc on continue un petit peu sur les fonctionnalités de cette cinquième génération. Et quand même, n'oublions pas que Pokémon, c'est avant tout un RPG, donc avec des phases de combat. Et c'est quand même un petit peu le socle de Pokémon. Et donc cet épisode introduisait des battles non plus en duo de VS2, mais 3 versus 3. Est-ce que tu penses que ces battles 3 versus 3 ont apporté quelque chose d'intéressant au jeu ? Est-ce que ça a été vraiment exploité ?
Les combats trio étaient intéressants dans la mesure où cette fois-ci, on ne pouvait pas viser n'importe qui. Et surtout, certaines attaques pouvaient permettre d'en toucher 3 à la fois, d'autres un seul à la fois. Mais selon la position du Pokémon, on ne pouvait pas atteindre tout le monde. Donc ça donnait des idées stratégiques assez intéressantes. Et ça nous obligeait vraiment à surveiller l'emplacement du Pokémon qui combattait.
D'accord, donc quelques petites nouveautés sans forcément remettre vraiment en cause le système de jeu de Pokémon. Alors, ce qui a vraiment quand même choqué, dans le bon sens du terme, lorsqu'on a vu les premières images de ce Pokémon noir et blanc, c'est vraiment les graphismes, notamment donc les environnements avec cette arrivée des grands buildings là, et même les graphismes pendant un combat avec des petites nouveautés. Est-ce que tu peux nous en dire plus ?
Les combats n'étaient pas forcément un bouleversement en matière de graphisme. Les menus étaient sensiblement les mêmes, même si du point de vue plastique, ils étaient assez différents. Ils étaient sensiblement les mêmes que dans la quatrième génération. Mais en combat, le terrain était affiché en 2D et demi. Donc le terrain était en 3D, mais les Pokémon étaient toujours des illustrations en deux dimensions sur lesquelles on zoomait ou dézoomait selon ce qu'on regardait.
D'accord, donc ça quand même, ça donne envie pour la 3DS, hein, cette 3D. Je suppose qu'elle sera bien plus en valeur une fois qu'elle sera sur 3DS. Donc si on reste un petit peu dans ce graphisme, maintenant on va s'intéresser un petit peu au design des petites bestioles en tant que telles, donc les Pokémon, qui a quand même fait un sacré débat et qui a un petit peu déçu certains joueurs. Et quel est ton avis sur cette question ?
Alors moi, je suis plutôt des joueurs qui s'y sont faits. Alors il faut savoir que quand ils nous avaient montré les premiers Pokémon de la cinquième génération, j'ai hurlé, je me suis dit « mais jamais je ne vais acheter ce jeu ». Et puis après, ils ont fini par montrer les petites nouveautés du système de combat, l'ergonomie et... J'ai fini par craquer pour ce jeu, et alors, mes préjugés ont fini par tomber. À chaque fois que je découvrais un nouveau Pokémon, j'étais absolument pas dans le dégoût ou quoi que ce soit, j'étais tout simplement mort de rire. Je me disais, mais qu'est-ce qu'ils vont encore nous trouver comme idée de fou, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de fumer dans leur studio chez Game Freak? Et c'était à chaque fois cette excitation de la découverte que j'avais. Et effectivement, c'est vrai que le design a énormément changé depuis les premières versions, mais je me dis d'un côté que ça permet de différencier les différentes générations entre elles et les régions dans lesquelles se situent ces bestioles. Ça donne finalement un côté exotique. Hein, et pour rappel, quand nous avons découvert les premiers Pokémon, nous étions des enfants et je crois que on pouvait gober plus facilement les choses. Aujourd'hui, les enfants qui découvrent Pokémon avec la cinquième génération s'y adaptent sans problème. Donc, qu'est-ce qui cloche chez nous ? Le problème, c'est qu'aujourd'hui, à mon avis, ce seront les enfants qui auront raison. Et nous, nous sommes juste des vieux imbéciles qui sont incapables de s'adapter. Mais c'est compréhensible que certains n'aient pas pu faire le pas sur la cinquième génération. Moi-même, j'ai eu du mal, mais finalement, j'ai appris à les aimer.
Ok, donc ça serait peut-être finalement un petit peu une certaine nostalgie de notre enfance, des Pikachu, des Carapuces, etc. Ouais, bon. Bon, en tout cas, ça ne fera peut-être pas l'unanimité, mais voilà, c'est pas forcément non plus l'essentiel du jeu que les graphismes des petites bestioles ne sont pas forcément l'essentiel de ce jeu. Alors maintenant, on va faire un petit peu le point donc, sur Pokémon Noir et Blanc 2 et vraiment voir ce que l'on sait suite à l'annonce qu'on a eue donc, ces derniers jours. Donc qu'est-ce qu'on sait ? On sait que le jeu sortira en juin au Japon. Donc finalement, l'annonce a été faite, enfin le jeu sortira assez rapidement après l'annonce qui a été faite. Et il ne devrait sortir qu'en automne en Europe. Donc finalement, on ne devra pas attendre trop longtemps par rapport aux Japonais. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle.
C'est beaucoup moins de temps d'attente que pour Argold et SoulSilver qui avaient quand même mis beaucoup plus de temps à sortir chez nous. J'avais même d'ailleurs joué à la version japonaise parce que j'étais vraiment pressé.
Donc vraiment une bonne nouvelle pour les Pokéfans. Et quelque chose d'un peu plus surprenant, donc, il s'agira d'une suite de Pokémon Noir et Blanc qui sortira sur DS, DSi, qui sera jouable sur la 3DS, mais qui ne sera pas un épisode exclusif 3DS comme on aurait pu y penser. Alors justement, donc cet épisode, comme on l'a dit, il s'agira d'une suite de Pokémon Noir et de Blanc, alors qu'on aurait pu s'attendre soit à un éventuel Pokémon Gris, donc qui serait un peu la trilogie de la cinquième génération, comme on en avait l'habitude avec Pokémon Perle, Diamant et Platine pour conclure cette trilogie, ou un remake. Certains s'attendaient à un remake de Saphir ou de Ruby. Et donc finalement, on a cette suite, ce qui est un petit peu nouveau dans le monde de Pokémon. Quel est ton avis sur le sujet et pourquoi Game Freak a choisi cette option ?
Pour surprendre, la cinquième génération a toujours, continue de sortir un peu des sentiers battus. Effectivement, on était habitué à ce qu'il y ait des trilogies dans les versions principales à chaque génération. La version jaune, la version émeraude et la version platine, notamment. Mais au final, ces versions n'apportaient pas forcément grand-chose par rapport aux épisodes précédents, mis à part peut-être des nouveaux lieux, des graphismes un peu améliorés, des menus un peu changés, mais finalement pas grand-chose. Ils ont plutôt opté pour une suite directe, sans forcément passer par la case épisode complémentaire qui servirait simplement à vendre. Quant à des remakes de Ruby et Saphir, ma théorie, c'est qu'en réalité, ils ont fait d'une pierre deux coups. La version grise, avec la représentation du Pokémon Turem, mais sous deux formes différentes. Et donc les versions Ruby Saphir, avec peut-être, je l'espère, la région de Hoenn qui sera réutilisée dans ces versions.
D'accord, donc effectivement, ça on en rediscutera peut-être un petit peu dans la partie sur les rumeurs. Donc on a dit que ça serait une suite de Pokémon Noir et Blanc. Alors à ton avis, est-ce que ça sera une suite directe ? C'est-à-dire, est-ce qu'on reprendra l'aventure là où on l'a laissé exactement après Noir et Blanc ? Ou est-ce qu'on en aura peut-être un autre scénario avec d'autres personnages ?
Alors on en est certain, le scénario sera totalement inédit. Quant à savoir si ce sera une suite ou une préquelle, mon avis est simple, ce sera une suite parce que Pokémon Noir et Blanc c'était plus ou moins fini sur un cliffhanger avec N, le méchant entre guillemets des versions Noir et Blanche, qui partait avec le Pokémon soit Reshiram soit Zekrom selon la version, et qui selon les dernières nouvelles est allé dans une autre région, laquelle, j'aimerais bien le savoir.
Effectivement, ça sera vraiment, à mon avis, un point clé de ce jeu. Et c'est pour ça que je suppose, on garde la surprise pour l'instant pour vraiment pas tout dévoiler. Alors, donc voilà. L'autre question qu'on peut se poser, vraiment, c'est pourquoi ce jeu sortira sur DS et pas sur 3DS, alors que c'est vraiment maintenant, tous les jeux sont portés sur la 3DS, que c'est la console qui a le vent en poupe. Pourquoi avoir choisi de porter les jeux sur DS ?
Alors, bon, ça, on l'a tous compris. La DS, pour l'instant, a un parc de jeux bien installé. Alors, ce serait idiot de ne pas profiter de toute cette installation. Après, effectivement, c'est sûr qu'un jeu Pokémon, un nouveau jeu Pokémon sur 3DS, aurait largement boosté les ventes de la console. Mais mon avis, c'est tout simplement que le moteur 3DS n'est pas prêt. Donc, il pourrait effectivement s'amuser à porter le moteur de la DS et en faire un jeu 3DS, mais on obtiendrait un jeu un peu bâclé, à mon sens.
D'accord, donc tu dis que le moteur de la 3DS n'est pas prêt, mais Nintendo a quand même déjà développé des jeux sur 3DS. Qu'est-ce qui est qu'est-ce qui pose difficulté pour la 3DS ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce que la 3DS apporte de nouveau qui va vraiment changer dans Pokémon ? Quels sont les éléments qui sont difficiles à changer ?
Depuis la Game Boy jusqu'à la DS, Pokémon a toujours fonctionné sur un système de cases contrôlables à la croix directionnelle. Avec la 3DS est apparu le disque analogique, une sorte de joystick, donc le circle pad si vous voulez. Et l'ennui, c'est qu'avec un tel système, il va falloir remettre largement en cause le système de cases et pas simplement faire un portage du moteur originel. Moi, j'y vois plutôt un système comme de déplacement comme Pokémon Colosseum, mais après, il va falloir qu'ils réfléchissent à comment se débarrasser du système de cases, etc., qui pourtant était vraiment le point central pour certains Pokémon dans les hautes herbes. Je pense par exemple au Pokémon Barpo qui n'apparaissait que sur une case unique dans Ruby et Saphir.
Ok, donc effectivement, c'est pas aussi simple que de se dire il faut simplement développer des nouveaux graphismes, faire du graphisme en 3D relief. Il y a vraiment des questions fondamentales.
J'ajoute par ailleurs que Diamant et Perle étaient un peu bâclés à ce niveau-là parce qu'ils avaient effectivement créé un menu tactile pour les combats, mais les menus sur le terrain étaient les mêmes que sur la version Game Boy Advance. Mis à part quelques ajouts tactiles totalement anecdotiques, il faut dire que ça n'allait pas très très loin. Donc je ne sais pas si c'est vraiment ce genre de jeu incomplet qu'on voudrait voir venir sur 3DS.
D'accord, donc tout ça est assez logique finalement. Donc maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux rumeurs, et Dieu sait qu'elles sont nombreuses sur ce jeu, puisque finalement c'est pas grand-chose, et un petit peu sur ce qu'on souhaiterait voir dans ce jeu. Donc au niveau du lieu de l'aventure, tu nous disais que ça se passerait peut-être à Hoenn. Est-ce que tu peux nous en dire plus et pourquoi ça se passerait là ?
C'est simple. Sur DS, quasiment toutes les régions existantes du monde de Pokémon ont été reproduites, sauf Hoenn. Et quel serait l'intérêt de reproduire Hoenn, après tout, vu que certains Pokémon de la quatrième génération, non, de la troisième génération, peuvent être trouvés maintenant ? Tout simplement parce que les trois golems, les trois Pokémon légendaires qu'on pouvait avoir dans Ruby et Saphir, si on a encore un port GBA sur sa vieille DS, et qu'on a encore le courage de faire des transferts sur Diamant et Perle, puis sur Noir et Blanc, non, à moins de faire ça, les trois golems sont devenus introuvables. Donc, à mon sens, c'est vraiment l'intérêt qu'on aurait surtout d'avoir Hoenn reproduite en vrai sur DS.
D'accord, donc maintenant on va s'intéresser un petit peu aux Pokémon stars de cette version, donc les Pokémon qu'on retrouvera sur les jaquettes, hein, puisqu'on le sait, on a vu un petit peu à quoi allaient ressembler les jaquettes, et donc le fameux Kyurem qui a fait couler pas mal d'encre, donc Kyurem noir et Kyurem blanc, d'où ça vient ça, ces deux nouveaux Pokémon, ils viennent d'où ?
Dans Pokémon noir et blanc, il y a trois dragons mythiques, Reshiram, Zekrom et Kyurem. Reshiram et Zekrom avaient tous les deux un rôle central. Ils étaient même sur les jaquettes des versions noires et blanches. Kyurem, on pouvait le capturer, mais il était un petit peu la cinquième roue du carrosse. Bon, on le capturait, mais il n'avait pas de véritable intérêt scénaristique. Et là, tout d'un coup, on le voit apparaître dans ces versions noires et blanches 2. Donc c'est un peu, à mon avis, ce qu'aurait pu faire une version grise si elle était sortie. Elle aurait mis Kyurem au centre de la jaquette. D'ailleurs, il y a eu des fausses jaquettes qui avait circulé à ce stade-là. Et donc, voilà, ce Thurème noir et ce Thurème blanc sont, à mon avis, des nouvelles formes de Thurème qu'on trouvera selon la version sur laquelle on jouera.
D'accord, donc, il y a eu quelques rumeurs sur l'origine de ces Pokémon. Et à ton avis, est-ce que ça sera simplement une nouvelle forme ou de vrais nouveaux Pokémon ?
De vrais nouveaux Pokémon, j'en doute. Pourquoi ? Parce que les noms japonais, Black Thurème et Hoaito Thurème, ont 7 caractères. La limite de caractères dans les versions japonaises de Pokémon est de 5. Aussi, les noms français ont été dévoilés sur le site officiel francophone, Thurème noir et Thurème blanc, qui comportent des espaces. Les noms de Pokémon n'ont jamais inclus d'espace.
D'accord, donc effectivement un indice intéressant. Au niveau de un petit peu le côté scénaristique qui va un petit peu donner un fondement à leur apparition, alors on a beaucoup parlé de fusion. Est-ce que tu as une théorie un petit peu là-dessus ?
Ma théorie, c'est que ce serait des variantes de Pokémon Thurème. À mon souvenir, apparemment des hackers avaient trouvé que Thurème avait les mêmes propriétés que Dilatina. Dilatina, qui était un légendaire de Diamant et Perle, qui avait une forme différente dans la version platine. Et à mon avis, Thurème noir et Thurème blanc ont peut-être le même comportement. Ou mon avis, quant au scénario, c'est que les Pokémon qu'on voit sur les jaquettes appartiennent à N, qui, à mon avis, aura trouvé un moyen de faire fusionner son Reshiram ou son Zekrom en y impliquant Thurème. À vrai dire, je serais même très curieux de savoir comment il s'y est pris. En tout cas, moi, ce que j'ai remarqué dans Noir et Blanc, sur les jaquettes, sur la jaquette de Pokémon Noir, on y voit un Pokémon blanc, et inversement. Sur les jaquettes de Noir et Blanc 2, le Pokémon de Noir 2, c'est Thurème noir. Et même chose pour la version blanche 2. Donc, ce qui me fait dire que le Pokémon qu'on voit sur la jaquette appartient à N et qu'on le battra en tant que boss. Quant à la transformation, j'aimerais bien savoir d'où ça vient.
D'accord, donc il faudra un petit peu attendre avant d'en savoir plus, bien évidemment. On fait un petit peu le point sur les autres rumeurs qu'on a entendues. On a parlé de triple type, donc des Pokémon qui pourraient avoir 3 types à la fois. Est-ce que tu y crois ?
Absolument pas. C'est un jeu de la 5e génération. Ajouter un triple type serait, à mon avis, un trop grand bouleversement pour un jeu de la 5e génération. Enfin, il faudrait revoir plein d'aspects stratégiques et je ne crois pas que Noir et Blanc 2 soit là pour ça. Il faudra attendre la génération 3DS, mais les triple types, même pour une 6e génération, je n'y crois pas du tout.
D'accord, bon. Et sinon, au point de vue des fonctionnalités du jeu, est-ce que tu penses qu'on peut s'attendre à des nouveautés en matière de online, etc. ?
Honnêtement, je ne vois pas. Pour l'instant, à mon avis, Pokémon Noir et Blanc était déjà très bien, et Noir et Blanc 2 continueront sur la même lancée. Après tout, quand je pense au cas de Diamant et Perle, et de Hard Gold et Soul Silver, c'était exactement les mêmes systèmes. Je ne vois pas quels apports il y aurait dans Pokémon Noir et Blanc 2.
D'accord, bon, je pense qu'on a fait un petit peu le point sur les différentes rumeurs. Donc, je rappelle que tu officies sur Nintendo Différence et qu'on peut te retrouver, donc, tu es rédacteur sous le pseudo Aegis. Voilà, donc je pense qu'on a fait un petit peu un tour assez complet sur la question. Et toi, est-ce que tu l'attends finalement, ce jeu ?
Énormément.
Ok, bon, bah, je pense que ça sera le mot de la fin. Merci à toi pour nous avoir répondu. Et puis, rendez-vous à très bientôt dans une prochaine Minute Nintendo.